Aujourd'hui, on va voir les témoignages de chaque chrétien et le témoignage de l'Église ensemble. Et on a vu que l'apologétique a des fondements bibliques. Nous croyons que ça fait partie de ce que Dieu nous demande de faire. On a vu aussi que toutes les personnes ont des visions du monde, une conception du monde dans lequel on est. Ils ont des réponses à certaines questions. En tout cas, ils croient avoir des réponses. Et ils ont des objections à la foi chrétienne. En réalité, c'est rare ceux qui n'ont pas d'opinion sur la foi chrétienne. En réalité, ceux qui ne sont pas chrétiens, souvent, la plupart du temps, sont opposés. Et ils ont des objections. Puis il y a des réponses qui existent. On a vu aussi que dans la vision que les gens ont du monde dans lequel on est, il y a forcément des contradictions, puisque ce n'est pas une vision qui est conforme à la réalité. Donc, ça ne peut pas être totalement cohérent. Il va y avoir des contradictions ou des incohérences à même leur pensée. Ou sinon, même si ça se tient, parce que ça a été bien réfléchi, il va y avoir une contradiction entre ce qu'ils pensent et la réalité, la manière dont ils vivent. Ce qu'on peut constater, ça ne reflètera pas ce qu'ils professent dans leur croyance. Donc ça, c'est une des tâches de soulever ces contradictions-là. On a vu aussi qu'il y a plusieurs raisons suffisantes pour la foi chrétienne. Pour nous-mêmes, on considère que c'est des preuves, des arguments qui viennent même conforter notre foi. Pour un non-chrétien, il va dire que ce n'est pas des preuves, mais il doit admettre que s'il est honnête, que c'est des raisons suffisantes pour croire à la Bible et pour chacune des doctrines présentées dans la foi chrétienne. Donc, c'est quelque chose de raisonnable. On ne croit pas à quelque chose de fou. La foi chrétienne peut être expliquée. Ça, on a passé les deux dernières leçons avec Tim et Osé à démontrer que c'est logique, cohérent, que ça se tient. Aujourd'hui, on va voir les témoignages de chaque chrétien et le témoignage de l'Église ensemble. Donc, on commence par le témoignage personnel. Une des choses que les gens vont voir en premier lorsqu'ils nous regardent, c'est notre caractère. En fait, c'est pas seulement parce qu'on est chrétien, c'est le réflexe qu'on a lorsqu'on côtoie des gens pour la première fois, lorsqu'on entre pour la première fois dans un groupe. Comme Jean Jolin, il va commencer bientôt ses études, puis lorsqu'il va rentrer dans la classe la première fois, il va voir les autres étudiants. Avant même de parler avec eux, il va avoir une idée qui va commencer à se forger de qui ils sont. Le professeur, quand il commence à parler, on commence à se faire une idée d'après son attitude, ses gestes, le ton de sa voix. En fait, dans le comportement, c'est une des premières choses qu'on observe chez les gens. Et en tant que chrétien, on est observé. Et le caractère peut donner soit de la crédibilité à nos paroles ou en enlever la crédibilité. Vous êtes d'accord qu'on peut prêcher l'Évangile, prêcher les vertus de Dieu, de Jésus, de la foi chrétienne? Si ce que les gens voient dans notre vie, dans notre comportement, au travail ou à la maison ou avec nos voisins, même dans notre allure, dans notre attitude, si ça contredit ce que l'on dit, ça va enlever toute crédibilité à notre message. Donc, ça souligne l'importance du témoignage. Et on peut voir que notre caractère, c'est souvent une preuve apologétique, l'une des plus efficaces. C'est-à-dire que notre attitude, notre comportement vient appuyer ce que l'on dit et même vient démontrer ou prouver que ce que l'on dit est vrai. En tout cas, devrait le faire. Ça ne l'est pas toujours, mais c'est ce que nous sommes appelés à être des témoins, pas seulement en parole, mais en action. Ça ne veut pas dire que les paroles sont moins importantes. Je ne me souviens pas si je l'ai inclus là-dedans, non. Mais il y a une pensée qui circule sur Internet là, qui dit « Évangélise en tout temps et lorsque c'est nécessaire, utilise des mots. » Ce qu'on veut dire par là, c'est que ce qui est plus important, c'est notre manière de vivre, qu'on devrait montrer dans le concret, là, qu'on est investi dans les bonnes œuvres, dans l'action sociale ou autre. Et s'il le faut, bien, une fois de temps en temps, on peut utiliser des mots, mais c'est secondaire. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit, là. Le message de Jésus doit être dit parce qu'il y a des vérités qu'on ne verra pas simplement en observant les chrétiens. On ne saura pas en observant les chrétiens que Jésus est mort pour nos péchés et qu'on peut obtenir la vie éternelle en croyant dans le sacrifice de Jésus. Ça doit être dit. Et on ne peut pas passer à côté de cela. Mais les gens pourront croire à ce que l'on dit si notre vie est conforme à ce que l'on dit. Ouais, l'un ne va pas sans l'autre. Mais quand même, Dieu peut utiliser même un inconverti qui annonce l'Évangile pour sauver des gens. Là. Ça s'est vu. Je ne sais pas si vous avez des exemples en tête même. Dieu est tout-puissant. Mais pour qu'on ait un témoignage efficace, normalement, notre vie doit refléter ce que l'on croit. On démontre ce que l'on dit par notre caractère. Et Dieu lui-même sait ce qu'il fait. Dans l'Ancien Testament, Dieu déclare qu'il est bon, qu'il est compatissant, qu'il est juste. Je vous parle souvent de l'islam, là. C'est pas pour cracher sur l'islam, là, mais c'est pour souligner la grande différence. Dans le Coran, Allah déclare qu'il est bon, qu'il est miséricordieux. Mais il le prouve d'aucune manière. Il n'y a absolument rien qui le démontre. C'est juste une déclaration comme ça. Dieu le déclare, mais il le démontre. Il le souligne à plusieurs reprises. Et il demande à son peuple de le croire en se rappelant de sa démonstration. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, il le prouve en agissant selon son caractère. Non seulement il dit qu'il est bon, mais il agit de manière bonne. Et il le démontre de plusieurs manières. Il est compatissant et il démontre la compassion. Il est juste et il montre sa justice. Et la plus grande preuve que Dieu présente dans l'Ancien Testament, c'est sa fidélité. Dans le Nouveau Testament, on dirait que c'est l'amour qui est comme la plus grande preuve en donnant son Fils Jésus. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas encore arrivé, ça. C'était en annonce, en préparation. Mais il démontre sa fidélité. C'est comme si ce qui caractérise toute sa démonstration. Et c'est ça qu'Israël devait annoncer. Lorsqu'ils annonçaient les vertus de Dieu, c'est tout sous le chapeau de sa fidélité. Parce qu'il est bon non seulement à un moment, mais il le demeure bon. Il demeure fidèle à ses promesses. Quelqu'un peut nous lire Psaume 105, 1 à 6.
Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses beaux faits. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob.
C'est ça. Donc, il invite les Israélites à se souvenir de tout ce qu'il a fait. Et qu'en se souvenant de cela, ils annoncent les vertus de Dieu. On s'est appuyé sur une démonstration de Dieu. Puis dans Psaume 118, bien, vous connaissez, c'est que sa miséricorde dure à toujours. Ou sa bonté dure toujours, sa bienveillance dure toujours. Il y a plusieurs manières de traduire. Hein? Plusieurs exemples qui sont donnés pour démontrer que sa bienveillance dure toujours. Sa miséricorde ou le bien qu'il donne à son peuple qui n'est pas mérité. Dans le fond, c'est en suivant l'exemple de Dieu qu'on veut démontrer son caractère. Hein? Nous annonçons que lorsque Jésus nous sauve, il nous fait naître de nouveau, il fait de nous une nouvelle créature. Ça fait partie du message de l'Évangile qu'on prêche. Si c'est vrai, ça, qu'est-ce que les gens devraient voir chez nous? Exactement. Les gens devraient voir notre transformation. Ça devrait être quelque chose de visible. Le fruit de l'esprit, c'est visible. Oui, la transformation s'est opérée dans le monde spirituel. On est passé de mort à vivant pour Dieu. Mais ça a un impact direct là, dans notre manière de penser, de parler et d'agir. Et ça, même un non-chrétien peut le voir. On dit qu'on est né de nouveau, les gens devraient le voir qu'on est né de nouveau. C'est pas juste un concept abstrait. Qui peut lire Galates 5, 22 à 25?
Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres.
Donc, ça touche, le fruit de l'esprit, ça touche plusieurs facettes de la vie, là. En fait, même si on regarde tous ces points-là, ça touche tous les aspects de notre vie, de notre caractère. Éphésiens 5, 8 et 9.
Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité.
Bonté, justice, vérité. Donc, agir dans la malhonnêteté, c'est contraire à ça. Quelqu'un qui fraude le gouvernement et puis que ses collègues de travail le voient, il est en train de détruire son témoignage. Il ne marche pas selon la lumière. C'est un exemple. Jacques 3, 12, 13.
Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse.
Plusieurs vont se dire sages et intelligents, mais ça devrait se voir dans la sagesse appliquée. Et un chrétien reçoit la sagesse de Dieu, donc la manière dont il agit, les décisions qu'il prend doivent manifester la sagesse de Dieu. Ça doit être ce qui caractérise un chrétien. Même les non-chrétiens devraient s'apercevoir qu'un chrétien agit de manière sage, sensée, puis c'est caractérisé aussi par une attitude de douceur, d'humilité. Et Jacques 2, 17, 18.
Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi.
Par mes œuvres, je te montrerai ma foi. En fait, on démontre notre foi, que notre foi est réelle par nos œuvres. Si on n'a pas les œuvres, on démontre le contraire. En fait, notre foi est morte, c'est même pas une vraie foi. 1 Pierre 3, 15, 16.
1 Pierre 3, 15, 16. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demanderont. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous le faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte.
Ils vont être comme confondus, couverts de honte. À cause de quoi? Finalement, ils vont être couverts de honte parce que ce qu'ils critiquent en réalité, c'est une bonne conduite en Christ. Ça va les confondre. Même notre attitude devrait être irréprochable, avec douceur, respect, ou comme on lit dans les colombes, dans la crainte de Dieu. 2:12 maintenant.
Ayez au milieu des bains une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera.
C'est assez clair. Donc, notre caractère est un argument apologétique. On peut voir aussi le chrétien qui est caractérisé par les sentiments qu'il a. Ça va un peu avec notre caractère, c'est lié, là. Puis on peut se demander, c'est quoi la différence entre un sentiment et une émotion? Est-ce que vous savez? C'est pas évident. Habituellement, on les utilise comme des synonymes, là. On peut dire qu'une émotion, en fait, c'est quelque chose qu'on ressent comme d'une manière naturelle. Je vais vous donner quelques caractéristiques. C'est une réaction qui est physiologique, donc ça se passe dans les hormones, là, ou les réactions chimiques, là. C'est une réponse aux stimuli, en fait, ou aux événements qui se passent. Si tu traverses la rue et qu'il y a un auto qui vient pour te frapper, tu vas avoir un réflexe, là. La peur va faire en sorte que tu vas te tasser vite, là. Bousser l'adrénaline. Ou tu vois quelqu'un qui est en train de frapper ton enfant, tu vas être pris d'un sentiment de colère. Ou tu vois un être cher qui souffre, tu peux être pris de tristesse. Donc, c'est une émotion, mais qui normalement est de courte durée. C'est pas quelque chose qui dure, là. Tu peux pas être dans une peur et une adrénaline pendant des jours. C'est pas normal, là. Tu vas mourir. Donc, c'est quelque chose qui est temporaire. Ce n'est ni bon ni mauvais, en fait. C'est simplement une réaction, qu'on peut dire physique, à ce qui se passe. Même être en colère, en réalité. Parce que parfois, on utilise le mot colère pour quelqu'un qui garde la colère, là. Ça peut avoir deux sens. Mais à la base, le mot colère, c'est simplement une émotion qu'on ressent face à une injustice qui nous paraît... quelque chose qui nous paraît injuste. C'est sûr qu'on peut se tromper parfois sur ce qui nous paraît injuste, là. Quelqu'un qui nous pile sur le pied, ça peut nous paraître très injuste. Ça nous met en colère. On peut se conditionner avec les années à comprendre que oh, c'est pas si grave que ça, finalement. Mais c'est une réaction qui est ni bonne ni mauvaise. Jésus a été rempli de colère. Jésus a été triste. Jésus a éprouvé de la joie, de l'allégresse face à voir quelque chose, comme un sentiment. Il a même éprouvé l'angoisse face à la mort. C'est une émotion. Et ce n'est ni bien ni mauvais, ça fait partie de l'être humain. Comme la peur, la tristesse, la colère, la fierté, ou la honte, l'allégresse. On pourrait dire joie, mais en fait, dans la Bible, le mot joie est utilisé pour quelque chose pour un sentiment. Le sentiment, c'est quelque chose qui est provoqué par une émotion, ou même une combinaison d'émotions. Ça peut tout à coup faire naître un sentiment, et ce sentiment-là, il peut être bon, comme il peut être mauvais. Et c'est quelque chose qui est un état qu'on entretient. Consciemment, parfois inconsciemment. Par exemple, maintenir une jalousie malsaine, là, comme une envie, un sentiment de culpabilité qui perdure, ou une anxiété. Donc, tu as la peur face à un événement ou une émotion d'angoisse, mais là, tu continues à y penser, là, puis tu entretiens cette peur-là, ça devient comme une anxiété qui est maintenue. Je ne dis pas que c'est toujours volontaire, mais c'est pas l'anxiété n'est pas une émotion sur le coup de l'événement. Là. C'est quelque chose qui est comme un résultat qui est maintenu. Mais on s'entend que c'est pas toujours aussi tranché net. Là. Parce qu'il y a parfois, on se conditionne avec nos sentiments. Tout à coup, on va éprouver des émotions qu'on dit « Ah, c'est incontrôlable », mais c'est à cause du conditionnement d'avant là, que tout à coup, on éprouve cette émotion-là. Normalement, quelqu'un d'autre n'aurait pas éprouvé cette émotion-là. Comme la fierté ou la honte, ça peut être conditionné aussi par notre conception de qu'est-ce qui nous rend fiers ou qu'est-ce qui nous rend honteux. Ça peut se changer avec le temps dans ce qu'il va cultiver, ce qu'il va entretenir. Un non-chrétien, par exemple, s'il subit, s'il éprouve une émotion de colère face à une injustice qui lui est faite, bien, il a toutes les raisons d'alimenter cette colère-là. Ça devient de l'amertume. Puis là, il garde ça tant qu'il ne sent pas qu'on lui a fait justice. Tant qu'il sent que l'autre personne mériterait d'être punie puis qu'elle ne l'est pas, ou même que les autres jugent que c'est une bonne personne puis qu'ils ne se rendent pas compte de l'injustice. Là, il va même en parler à tout le monde pour que, voyons, rendez-vous compte que cette personne-là est méchante, voyez ce qu'elle m'a fait. Puis il peut cultiver l'émotion de colère qui a surgi, là, puis il la garde. Mais c'est là où ça devient mauvais. Comme une colère cultivée, là, ou entretenue. Donc, on peut dire de l'amertume. Oui, c'est nourri. Oui, Célestin?
Je voudrais dire aussi, c'est ce qui fait de nous de nouvelles créatures. Parce que l'avantage qu'on a ou la grâce qu'on a, c'est que l'Esprit de Dieu va nous dire, lorsqu'on commence par être sur la mauvaise pente, le Saint-Esprit nous fera pointer du doigt, mais attends, tu as le temps d'aller sur la mauvaise pente.
C'est vrai.
Et on peut revenir. Tandis que celui qui n'est pas chrétien, il s'en fout. Là. C'est-à-dire, il n'y a pas une alerte qui va lui dire, là, tu es en train d'aller sur une voie contraire à ce que je veux.
C'est vrai. Parfois, il y en a qui peuvent se raisonner en voyant les mauvaises conséquences. Parce qu'on le voit, quelqu'un qui refuse de pardonner, même un non-chrétien le voit, celui qui maintient une colère dans son cœur, une amertume, qui refuse de pardonner, s'auto-détruit. Même l'observation des non-chrétiens le voit. Là. Même les psychiatres vont conseiller le pardon. En fait, ça vient de Dieu. Mais un chrétien, lui, le Saint-Esprit va lui conseiller. Il va se sentir mal s'il reste, non seulement à cause des conséquences sur lui-même, mais il va se sentir mal parce qu'il sait que c'est pas bien, c'est un péché. Donc, les chrétiens peuvent éprouver les mêmes émotions qu'un non-chrétien, mais le chrétien va chercher à entretenir des bons sentiments. C'est comme un état d'esprit dans lequel il va se maintenir. L'exemple de la colère, bien, Paul en parle dans Éphésiens. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, la colère n'est pas un péché. Par contre, ça peut être une occasion pour nous de tomber dans le péché. Mais il dit, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Donc, ne maintenez pas consciemment un sentiment de frustration, de colère, ça devient de l'amertume, et le diable va utiliser ça pour vous faire pécher de toutes sortes de manières. Ou dans Hébreux 12, « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs même en soient infectés. » Donc, les non-chrétiens devraient voir cela chez un chrétien qui cultive des sentiments qui sont bons, qui sont nobles. Aussi, on annonce l'espérance de la vie éternelle en Jésus. Lorsqu'on annonce l'Évangile, on présente qu'on est sûr d'avoir la vie éternelle. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on sait que Jésus nous a sauvés. Qu'est-ce que ça devrait produire, ça, dans notre attitude? Comment les gens devraient voir là, notre assurance d'être sauvés? La paix, oui, la reconnaissance. On veut aimer en retour, c'est lié avec la reconnaissance, la joie. Je pense que c'est un des premiers signes, je pense, de quelqu'un qui sait qu'il est sauvé, là. C'est la joie. Ça va être la paix, là. C'est la joie d'avoir trouvé la paix. On peut appeler ça l'espérance. Ça produit la joie, en fait. La joie est basée sur notre espérance. Les gens devraient voir notre joie. Dans Romains 12.
Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière.
Ouais, donc réjouissez-vous dans l'espérance. Là, ici, c'est pas l'émotion de la joie, là, quand tu es témoin de quelque chose. C'est une joie qui est entretenue. Philippiens 4:4 dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et Jacques 1, 2 et 3, qui dit de considérer comme un sujet de joie même les diverses épreuves. Ouais, une joie complète, les diverses épreuves. Wow! Parce que là, c'est une grande sagesse que le Saint-Esprit nous donne. C'est qu'on finit par comprendre que même les épreuves nous font grandir. Hier, je parlais au téléphone avec une sœur qui a souffert beaucoup dans les dernières années. Puis elle ne pouvait pas s'imaginer au début dans sa souffrance que ça pouvait concourir à son bien. Mais aujourd'hui, elle témoigne que ça concourt à son bien. Ça l'a sanctifié. Elle a pu découvrir des péchés qu'elle avait dans sa vie, les délaisser. Elle connaît davantage le Seigneur. Et même, elle ne voudrait pas que ça soit passé différemment. Donc, elle loue le Seigneur pour cela. Il y a seulement un chrétien qui peut parler comme ça. Parce qu'en français, on utilise le mot « joie » pour les deux, là, pour l'émotion et le sentiment. Si on parle du sentiment lui-même, on peut appeler ça l'allégresse. Mais on n'utilise pas souvent ce mot-là. Même le sentiment de colère qui est entretenu, là, tu peux le ressentir vraiment. Là. Ça te ronge. Là. C'est aussi fort qu'une émotion sur le champ. Là. Je pense pas qu'on peut différencier à ce niveau-là. Les non-chrétiens devraient voir aussi chez nous la paix, comme disait Michel. Donc, un sentiment de paix. Qu'est-ce que ça dit, Philippiens 4, 6, 7?
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus.
C'est ça, ne vous inquiétez de rien. Ici, il ne parle pas simplement de l'émotion d'éprouver de l'angoisse face à un risque. L'inquiétude, c'est quelque chose qu'on entretient. Le chrétien peut apprendre à ne pas s'inquiéter et au contraire d'être dans la paix, de garder ses yeux sur Christ. Cette paix-là va être visible et ça vient ajouter à notre témoignage, ça devient un argument apologétique. Et Jean 14, 27, c'est Jésus qui annonce qu'il nous donne sa paix. Ça vient de lui, ça. Donc, on a parlé du témoignage personnel, individuel. Mais il y a un témoignage qui est même, je dirais, encore plus fort. Et c'est le principal, c'est le témoignage de l'Église. Là où ça devient encore plus profond, encore plus manifeste là, aux yeux des non-chrétiens, c'est que ce n'est pas seulement dans la vie d'une personne, c'est dans la combinaison de la vie de plusieurs personnes ensemble, qui ont souvent aucun lien entre eux, à part le fait qu'ils sont chrétiens. Et le témoignage de l'Église devient vraiment un argument apologétique. Bon, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais il y a une tendance actuellement de dire que l'Église locale, bon, c'est juste la tradition des hommes, ça. Puis il y a des gens qui veulent comme faire l'Église en dehors de l'Église. C'est comme si, lorsqu'on se réunit dans un café où on va prendre une bière, que là, c'est plus réel. Puis c'est la véritable Église. Où on se réunit pour aller se baigner, ou on s'en va en vacances, ou pour faire n'importe quelle activité. Là, enfin, ça devient plus réel. Mais si tu les écoutes, c'est comme si même si c'est plus réel que lorsqu'on est réunis ensemble pour célébrer la table du Seigneur. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi, là. C'est pas ce que le Nouveau Testament nous dit. C'est lorsque les chrétiens sont assemblés pour adorer Dieu, pour le servir, que c'est là que c'est l'Église. Et c'est là que c'est réel. Ça veut pas dire qu'on peut pas se réunir dans toutes sortes d'occasions, là, exercer l'hospitalité et se réjouir entre frères. Mais ce que les gens ont besoin de voir chez les chrétiens, c'est pas seulement qu'ils sont des gens ordinaires comme tout le monde. Parfois, c'est ce que les chrétiens veulent démontrer à leurs collègues de travail. Je ne suis pas un extraterrestre, moi, je suis quelqu'un comme toi. Oui, OK, il va être convaincu de ça, mais ce que les non-chrétiens ont besoin de voir, c'est des chrétiens, comment ils vivent ensemble. Ils ont besoin de voir les relations chrétiennes de leurs yeux. Ils ne verront pas si on fait seulement s'afficher devant eux comme des gens, comme tout le monde. On va réussir à prouver un point qu'on n'est pas si différent, mais ça mène à quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils vont connaître de plus à propos de Dieu? En quoi ça va les convaincre que notre message de l'Évangile est vrai? C'est seulement s'ils le voient en réalité parmi les chrétiens qu'ils vont le comprendre.
La problématique que je vois peut-être, c'est le fait qu'ils font des distinctions dans la vie de tous les jours. Si tu es vraiment en paix, tu vas l'être tout le temps. Que tu sois en grande église, que tu sois entre amis, deux, trois chrétiens ensemble, tu vas toujours être différent, tu vas toujours avoir la paix. Dans les épreuves, dans la joie, ça serait tout le temps. Le plus compliqué, c'est d'être en paix et en harmonie avec un grand groupe.
Oui, bien c'est ça. Il y a des choses que tu ne peux pas démontrer tout seul. C'est quand tu es avec d'autres chrétiens que là, ça se voit. Par exemple, le pardon, la patience, qu'on se supporte les uns les autres. La persévérance, où on s'exhorte les uns les autres à persévérer. On persévère ensemble, on marche ensemble. La compassion. Et tout ça, ça se voit dans les relations entre les chrétiens. Et une chose qui devrait être plus visible, puis c'est... On l'a dit tantôt, je ne sais pas qui, mais c'est l'amour fraternel. Lorsque Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », parfois aujourd'hui, c'est utilisé ça pour dire qu'il faut aller aimer son voisin. Mais ce n'est pas le premier commandement de Jésus. Lorsqu'il nous dit « aimez-vous les uns les autres », c'est entre chrétiens, c'est l'amour fraternel, qu'un chrétien aime son frère chrétien. Et ça devient une preuve, ça, apologétique, une démonstration que Christ est réel. Dans Jean 13, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, un amour qui est sacrificiel, qui est prêt à subir la honte, la souffrance même pour le bien de l'autre. À ceci, Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Les gens vont pouvoir dire, « OK, c'est véritablement des disciples de Jésus-Christ. » Parce qu'ils s'aiment, ces gens-là. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont donner leur vie au Seigneur, mais ça arrive souvent que des gens vont donner leur vie au Seigneur. Et l'élément qui leur manquait, c'est peut-être de voir si ce message-là est vrai. Et ils vont voir que c'est vrai en voyant des chrétiens qui s'aiment. Enfin, qui s'aiment mutuellement, réciproquement. C'est sûr que ce n'est pas une mauvaise chose d'aimer les gens du monde. Jésus nous dit d'aimer même nos ennemis, de prier pour eux. De prier pour les dirigeants du pays, même s'ils ne sont pas forcément chrétiens. Mais lorsque Jésus dit de s'aimer les uns les autres dans le but que ce soit une démonstration de la réalité de Christ, il ne parle pas de l'amour envers le monde. Il parle de l'amour dans l'Église. C'est ça qui est la démonstration. Et cette réalité-là, d'amour, ben ça va se voir, entre autres, dans l'unité. Si on s'aime, on va chercher à rester unis. Ça va nous faire mal que quelqu'un s'éloigne. Ça ne nous laissera pas indifférents si un frère, tout à coup, on n'entend plus parler de lui. On va l'appeler, on va essayer d'aller le chercher. C'est sûr qu'on ne peut pas connaître et être attaché au même niveau avec tous les gens de l'Église lorsqu'on est une grande assemblée. Mais il y a forcément au moins des chrétiens plus près de la personne qui s'est sauvée, là, pour qu'ils vont aller le chercher, en fait. Dieu s'arrange pour qu'on tisse des liens, comme une toile, et on recherche ensemble l'unité. C'est une des manifestations de l'amour. Et c'est encore là une démonstration. En Jean 17, Jésus dit, « Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » C'est Jésus qui parle à son Père. Donc, comme Jésus et le Père sont un, il a donné cette gloire-là aux chrétiens afin qu'ils soient un. C'est fort, là. « Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Wow! En voyant notre unité, les gens vont pouvoir connaître que Jésus a vraiment été envoyé du Père et qu'il nous a aimés et que Dieu nous a aimés. Oui, Adélaïde. C'est pas seulement dans le culte le dimanche matin, dans la grande assemblée. Parfois, un non-chrétien va avoir peur de se présenter dans une grande assemblée. La peur à cause des sectes ou je ne sais pas quoi, là, ou parce qu'il a juré que jamais il mettrait les pieds dans une église. Mais les chrétiens ne s'assemblent pas seulement pendant le culte, ils s'assemblent aussi pour des cours, dans les groupes de quartier, dans les maisons. Ou même dans des réunions qui ne sont pas officielles, mais sachant qu'ils sont des chrétiens ensemble, ils ont un objectif commun de rayonner, de faire voir en action le royaume de Dieu, en fait, l'Évangile. Et les non-chrétiens peuvent être témoins de cela. Il suffit qu'il y ait deux chrétiens dans un bureau de travail pour que les gens voient comment ces deux chrétiens-là se respectent mutuellement et comment ils s'entraident, comment leur lien est fort. C'est sûr que si tu es tout seul de chrétien face à tous ceux qui t'entourent, là, tu ne pourras pas avoir ce témoignage-là de l'amour fraternel, mais tu peux quand même démontrer, comme on disait tantôt, un témoignage personnel dans ton caractère, dans les sentiments que tu entretiens, et les sentiments que tu entretiens envers les gens qui t'entourent aussi. Donc, même si un collègue de travail te blesse, tu vas être quand même prêt à oublier ça, à lui faire grâce, à dire à Dieu, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, les gens vont quand même voir que tu as une réaction différente. Là, tu peux quand même témoigner. Mais c'est bon quand même d'inviter ou de faire un effort pour mettre les non-chrétiens en contact avec un regroupement de chrétiens, qu'ils voient qu'est-ce que c'est qu'il y a des chrétiens ensemble. Et si même ils acceptent de venir assister à des rencontres en Église, bien, c'est encore mieux.
Pour ajouter aussi que cela, le fait que nous manifestons de l'amour entre nous chrétiens, cela n'exclut pas le fait qu'à l'endroit de ceux du dehors aussi, on puisse avoir de l'amour.
Ouais.
Déjà, entre nous chrétiens, la manifestation de l'amour qu'on a entre nous, effectivement, glorifie Dieu. Et puis cela peut être même un signe pour le non-chrétien aussi, pour venir.
Oui, ouais, c'est vrai.
Se joindre à nous.
Et c'est ce qui a convaincu les habitants de Jérusalem. On va aller lire Acte 2, passage qu'on connaît bien. La naissance de la première Église. Bien, tout de suite après la naissance de la première Église, on voit comment ils se comportaient. Ils obtenaient la faveur de tout le peuple, en fait. Tout le peuple, tout à coup, avait une bonne opinion d'eux en voyant comment ils agissaient entre eux. De manière qu'ils partageaient tout, ils mettaient tout en commun, ils s'entraidaient, ils s'exhortaient à louer le Seigneur, ils étaient joyeux. Ils ne considéraient même plus leur bien comme étant propre. Ils étaient prêts à tout donner pour l'Église. Et c'est en voyant cela, en étant témoin de cela, que les gens finalement croyaient et Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était le témoignage de l'intérieur de l'Église qui parlaient le plus fort pour les gens de Jérusalem. Ce n'est pas dit qu'ils étaient en train de lutter contre la pauvreté à Jérusalem. En fait, ils luttaient pour la justice, mais à l'intérieur de l'Église. Peut-être que ça rayonnait sur les autres autour, là, forcément. Mais c'est le témoignage de l'intérieur de l'Église qui a touché les gens de Jérusalem. Et ça continue à s'accroître là, jusqu'à 5000 personnes, et ça continue encore. Au point où ça brasse tellement qu'ils ont subi de la persécution. On cherche à convaincre, sachant que c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. Et qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui... Ouais, ben en tout cas, on voit que c'est Dieu qui tire les ficelles. Là. C'est Dieu qui ajoute même à l'Église ceux qui sont sauvés. C'est Dieu qui sauve. Et c'est vrai que ça peut être un appui à la doctrine de l'élection. Mais je me demande, je suis jamais allé voir dans le grec, ce verbe-là est à quel temps? Faudrait que je le voir. Parce qu'en français, on a le présent, l'imparfait, le passé composé, mais dans le grec, il y a plus de détails, puis parfois, ça peut révéler quelque chose. La réalité de la vie chrétienne, donc, se voit dans l'unité, et se voit aussi dans la capacité à se pardonner, ce qui est même souvent vu comme étant surnaturel, incompréhensible. Un des plus grands exemples, parce qu'on voit dans la Nouvelle Église, on disait tantôt ils sont montés à 5000 membres, là, tout à coup, ils brassaient tellement que là, les juifs, les dirigeants juifs ont dit qu'il faut faire quelque chose. Là. Puis un des plus zélés pour combattre l'Église, c'est Paul. À l'époque, il s'appelait Saul. Le persécuteur de l'Église, là. Il les pourchassait, il les envoyait en prison, il causait le malheur, des divisions dans les familles, au point où ils ont dû quitter même Jérusalem, ils ont été disséminés dans l'Empire romain, dans plusieurs villes. Et ce Saul-là, une fois qu'il s'est converti, Jésus l'a touché, lui-même a été accueilli par les chrétiens dans les églises. Ça, c'est incroyable. On ne verra pas ça dans une organisation humaine, là, que celui qui a persécuté, qui finalement soit accueilli, puis même qu'il devienne un dirigeant. Voyons donc. Ça démontre vraiment le pardon par le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Ça montre que c'est réel. Et il a même été... on lit même dans Actes que lorsque les chrétiens ont été dispersés, il y a plusieurs églises qui se sont formées à cause de cela, et dont à Antioche. Donc, en fait, l'église d'Antioche est née des fruits de la persécution de Paul. Et plus tard, Paul a été envoyé à Antioche et il a été accueilli. Et même plus tard, il a été envoyé en leur nom comme missionnaire. Et la réalité de la vie chrétienne se voit dans la diversité aussi. Ça va avec l'unité, l'accueil, mais c'est qu'on est, on n'est pas seulement unis entre des gens qui se ressemblent tous. On est unis avec des gens qui sont très diversifiés, là, de plusieurs arrière-plans, de plusieurs nationalités même. Et un des exemples, les premiers dans l'histoire de l'Église, c'est lorsque tout à coup des chrétiens d'origine juive vivaient avec des chrétiens d'origine païenne, puis ils n'avaient pas les mêmes habitudes, puis les juifs disaient « Hey, les païens devraient se faire circoncire. » Là, wow, là, ça risquait finalement là, d'avoir une division, d'avoir deux branches. Là. Puis ils ont amené la situation même à Jérusalem, puis on a vu toute l'importance qu'ils ont mis à chercher la paix, mais en suivant la volonté de Dieu. Et l'objectif, c'était cela. C'était de trouver une paix entre chrétiens d'origine juive et païens. Et le Saint-Esprit les a conduits. Et finalement, ça a donné les églises comme mixtes, qui suivaient la volonté de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, on vit dans des églises... on essaye d'être dans des églises multiethniques. Et la réalité de la vie chrétienne se voit dans la grâce réciproque. Ça va avec le pardon. Mais la grâce, c'est aussi de se supporter les uns les autres, d'être conscient qu'aucun de nous n'a atteint la perfection. Comme on disait tantôt, on va de progrès en progrès, mais personne n'atteint la perfection. C'est seulement à la glorification finale qu'on va l'avoir atteint. Mais on accepte d'être dans une église où il y a des hypocrites, où il y a des menteurs, où il y a des gens qui manquent à leurs promesses, où il y a des gens qui se blessent, il y a des gens qui veulent même parfois faire du mal à leurs frères, qu'il y a des injustices, des paroles blessantes. On accepte d'être dans une église où on va trouver de tout cela. Puis il faut avouer que nous-mêmes, on y participe aussi à des choses mauvaises qui se passent dans l'église. Parce qu'on se fait grâce. Sachant que Dieu nous a fait grâce, on fait grâce à nos frères. Puis on accepte qu'on est dans un processus de sanctification. Les pharisiens voyaient que Jésus était assis parfois avec des pécheurs. Puis il lui reprochait, « Pourquoi votre maître mange avec des péagers, des pécheurs? » Et Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie, je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc, une église va accepter que quelqu'un qui se convertit a beaucoup de ménage à faire dans sa vie. Il va accepter que c'est un processus, là, puis qu'il ne peut pas régler tout du jour au lendemain. Puis, c'est pas qu'on tolère le péché, mais c'est qu'on accepte le fait qu'il y a une progression dans la sanctification. Puis on encourage plutôt que de, condamné. Ça devrait être ça dans une église. Et la grâce réciproque, le fait que les chrétiens s'acceptent, malgré le fait qu'aucun n'est parfait, ça aussi, c'est une manifestation aux yeux du monde, une preuve de la réalité de la grâce de Dieu. Ça devrait être une preuve de la réalité de la grâce de Dieu. Et le dernier point, c'est que la réalité de la vie chrétienne se voit dans la justice. Entre nous, on ne devrait pas tolérer d'injustice. Si vous vous souvenez, dans Acte 6, c'était quoi le contexte? C'était quoi le problème? On va terminer là-dessus. Dans Acte 6, 1, c'est qu'il y a des gens qui se sont mis à critiquer. C'était dans la première église. Ils se sont mis à chialer, en fait, mais leur murmure était fondée sur quelque chose de réel. C'est que les veuves des chrétiens païens étaient traitées injustement. C'est comme si la priorité était mise aux veuves juives. Puis là, ils se sont plaints de ça. Ils ont dit quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a une injustice. Ça a été quoi la solution? Bien, ça a été la création d'un nouvel office des diacres. Le but, c'était d'amener la justice dans l'Église. Et ça devrait être visible par les non-chrétiens aussi. Bon, on va terminer juste sur une pensée. Lorsque les chrétiens luttent pour la justice sociale dans le monde ou pour la paix mondiale, ils peuvent, oui, peut-être ils peuvent faire du bien, mais ils peuvent au mieux améliorer l'opinion que la société a d'eux. C'est vrai qu'on peut peut-être parvenir à gagner le respect des gens, mais c'est le plus qu'on peut obtenir. Mais lorsque les chrétiens s'efforcent de faire de l'Église un lieu de justice et de paix, là, ça devient une démonstration que le royaume de Dieu est réel et qu'il est possible. Là, ça devient un argument pour convaincre les gens que la foi en Jésus, ce n'est pas une foi dans un concept vain, c'est quelque chose de réel. Que le royaume de Dieu que Jésus annonce pour la nouvelle terre et les nouveaux cieux est quelque chose de réel et qui existe déjà dans l'Église. Oui, c'est plus important. En fait, c'est sûr que ça vient de nous toucher notre cœur. Et lorsque des chrétiens disent « Wow, t'es un bon chrétien, toi », ça vient nous flatter, puis on peut aimer ça. On aime à ce que les gens du monde nous respectent et nous louangent même. On dira « c'est gloire à Dieu ». Oui, mais est-ce qu'ils se convertissent? Le plus important, c'est qu'ils soient sauvés. Et ce qui va les sauver, c'est pas qu'ils tout à coup, ils vont être convaincus qu'on est des bons gars. C'est s'ils sont convaincus que le royaume de Dieu est réel. Et ça se voit dans l'Église. Quelqu'un pourrait prier pour conclure ce cours et la session même.